Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers séminaristes, chers fidèles, notre Mère, la Sainte Église, ne se montre nulle part ailleurs meilleure éducatrice que dans sa belle liturgie. Ainsi, elle ne nous porte pas seulement à prier de tout notre cœur, notre Père du ciel, mais aussi elle tient à fonder notre prière non pas sur le sable mouvant de la sentimentalité si mobile, mais sur le roc d'une solide doctrine. C'est qu'elle sait bien que l'une et l'autre, la doctrine et la piété, sont également nécessaires à la vie de notre âme. C'est ainsi qu'un jour, un jeune religieux demandait au bienheureux Jourdain de Saxe, le successeur de Saint Dominique à la tête de l'ordre des frères prêcheurs, s'il valait mieux prier toujours ou étudier toujours. Et le bienheureux lui répondit avec beaucoup d'à-propos, « Lequel des deux est meilleur, mon cher frère, de manger seulement ou de boire seulement ?» Faites donc pour votre âme ce que vous faites pour votre corps. Priez et étudiez. C'est ainsi que l'introïte de cette messe nous offre un enseignement très utile pour l'époque où nous vivons. Et ceci en trois phrases. « Je suis le salut du peuple, dit le Seigneur. » De quelques tribulations qu'ils crient vers moi, je les exaucerai. Mon peuple, écoutez ma voix, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Le bon Dieu est le salut de son peuple, c'est-à-dire de son Église, de chacun des membres de son Église, de chacun d'entre nous. Il nous sauve. Mais ici, une certaine difficulté peut se poser. C'est-à-dire, comment pouvons-nous dire que Dieu est notre salut aujourd'hui, dans cette tempête, dans cette crise de l'Église? Eh bien, le bon Dieu peut nous répondre un peu comme il a répondu au prophète Élie. Il y a longtemps, lorsque ce prophète se lamentait de l'infidélité généralisée de son peuple, le peuple d'Israël. Le bon Dieu lui répondit, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant l'idole de Baal. » Ces 7000 hommes représentent le petit reste que nous sommes, que Dieu se réserve, qu'il garde, qu'il conserve, et si nous sommes fidèles à sa grâce, il nous sauvera, c'est-à-dire qu'il nous donnera le ciel, le salut éternel. Et vraiment, cette œuvre de préservation est une œuvre de la toute-puissance de Dieu. Humainement parlant, dans cette crise, lorsque l'erreur a fait tomber tant de catholiques, lorsque le monde est si acharné et rend si difficile l'union à Dieu, nous pouvons dire que notre fidélité est vraiment l'œuvre de la providence, d'une protection toute spéciale. Et c'est important de nous le rappeler. Simplement, nous nous attarderons un peu davantage à la suite de l'introïte qui nous parle de notre coopération à apporter à cette œuvre de salut. Saint Augustin dit en effet, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Et c'est pourquoi l'introïte continue, « De quelques tribulations qu'il crie vers moi, je les exaucerai. » Cela indique, bien sûr, la prière. Le bon Dieu nous demande de prier. Mais si nous voulons vraiment savoir dans quel esprit il faut prier, nous devons nous demander pourquoi est-ce que le bon Dieu nous demande de le supplier. Parce que lorsqu'on y regarde bien, Dieu qui est tout-puissant n'a pas besoin en soi de nos prières. Il pourrait très bien nous accorder ses grâces et ses dons sans que nous le demandions. D'ailleurs, pour beaucoup de grâces que nous avons reçues, nous ne les avons pas demandées. Par exemple, pour tous ceux qui ont été baptisés avant l'âge adulte, déjà cette première grâce, qui est la plus importante, le début de notre vie spirituelle, nous ne l'avons pas demandé dans les prières. Mais, n'empêche, le bon Dieu nous demande de prier au moins un peu. Pourquoi? Ce n'est évidemment pas pour que nous lui fassions connaître nos besoins. Dieu sait toutes choses de toute éternité. Il connaissait nos besoins bien avant que nous ne naissions. Ce n'est pas non plus pour que nous fléchissions sa volonté. Un peu comme un enfant arrive à obtenir une permission de sa mère à force d'insistance. Le bon Dieu est infiniment parfait, il ne change pas, sa volonté n'est pas mobile comme la nôtre. Non, si le bon Dieu nous demande de prier, c'est pour nous honorer, pour nous associer d'une certaine manière à cette œuvre merveilleuse de notre salut, du salut de notre prochain, du triomphe aussi de la Sainte Église. Il veut que nous apportions notre coopération en demandant au moins certaines grâces, c'est-à-dire que le bon Dieu n'accorde certains de ses dons qu'à la condition que nous le lui demandions. Si donc nous voulons que le bon Dieu nous sauve, qu'il sauve notre prochain, nous devons prier. Mais remarquez que la suite de l'introïte nous dit non pas de quelques tribulations qu'il prie vers moi, je les exaucerai, mais de quelques tribulations qu'il crie vers moi, je les exaucerai. Et le cri de notre âme, c'est le désir de notre cœur, un désir véhément, brûlant, ardent. Saint Dominique avouait un jour à un abbé cistercien qu'il n'avait jamais rien demandé au ciel sans avoir été exaucé. Mais en même temps, quelle n'était pas sa prière? Ses contemporains nous rapportent que le soir, lorsqu'il s'enfermait une majeure partie de la nuit à l'église et qu'il priait, il ne pouvait comprimer dans son âme les désirs de son cœur. Sa prière sortait en cri véhément, qui retentissait comme le rugissement d'un lion. Ses cris étaient si forts qu'ils réveillaient les frères qui dormaient dans les cellules les plus proches de l'église et les émouvaient jusqu'aux larmes. C'était là vraiment une prière qui redescendait vers la terre en pluie de grâce. Bien sûr, il ne s'agit pas pour nous de crier avec notre voix, mais d'avoir un grand désir du cœur dans notre prière, une véritable ferveur, alors cela, oui. Vous avez tous en tête l'image de Notre-Dame du Bac. Elle a ses mains étendues vers la terre, et de ses mains, ou plus exactement de 15 tisonniers qu'elle portait au doigt, et qui signifie le rosaire, s'échappaient de nombreux rayons, signifiant les grâces qu'elle nous accorde. Simplement, certains de ces rayons n'étaient pas lumineux. Et Notre-Dame en donne la cause. Ces rayons représentent les grâces qu'elle voudrait nous accorder mais qu'elle ne nous donne pas parce que nous ne les demandons pas. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort recommande comme une manière très efficace d'éviter les distractions dans le chapelet quotidien, de nous fixer à chaque dizaine une intention bien particulière, une certaine grâce que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos amis, pour nos proches, et de la demander dans ces dizaines de façon à ce que ce désir normal que nous avons pour cette grâce suscite davantage notre ferveur. Et c'est vrai que c'est une aide bien puissante pour bien prier notre chapelet, et cela aide à ce que le chapelet ne soit pas monotone. Ce peut donc être une bonne résolution à prendre en ce mois du rosaire. Simplement, la prière ne suffit pas. Saint Ignace disait qu'il faut prier comme si tout ne dépendait que de Dieu et agir comme si tout ne dépendait que de nous. Et c'est pourquoi l'introïde continue « Mon peuple, écoutez ma voix, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. » Écouter son supérieur, cela veut dire lui obéir. Donc écouter la voix de Dieu, c'est obéir à Dieu, accomplir les commandements. Si vraiment nous cherchons à prier de tout notre cœur et à accomplir tout ce qu'il nous demande, notre devoir d'État, alors là, Dieu nous sauvera malgré nos ennemis. Et peu importe, en fait, que nos ennemis soient humainement bien plus puissants que nous, qu'ils disposent de moyens que nous n'avons pas. Si nous nous appuyons sur Dieu, si nous prenons les moyens qu'il met à notre disposition, alors nous sommes revêtus de la force même de Dieu et nous sommes invincibles. Il y a une histoire, l'histoire de Gédéon, qui nous le montre très bien dans l'histoire sainte de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était tombé dans l'idolâtrie. Aussi la Providence envoya contre lui, les Madianites, un peuple puissant qui les réduisait à une extrême misère. Et ceci dura 7 ans. Au milieu de ces malheurs, le peuple hébreu se repentit. Il cria vers le Seigneur et Dieu, qui est infiniment miséricordieux, l'exauça. Il envoya son ange à Gédéon pour lui enjoindre de sauver son peuple. Gédéon fut alors rempli de la force de Dieu. Il rassembla 32 000 hommes. 32 000 hommes, c'était bien peu, d'une certaine manière, contre l'armée innombrable des Madianites. Et pourtant, aux yeux de Dieu, c'était trop. Ils auraient pu peut-être en tirer quelque gloire humaine, en se disant, par exemple, que leur victoire viendrait de leur propre force, de leur astuce. Que ceux qui ont peur, dit le Seigneur, se retire. 22 000 hommes partent. Il n'en reste que 10 000. Mais 10 000, c'était toujours trop. Allez à la rivière. Le soleil était haut dans le ciel, la chaleur brûlante. Les hommes avaient soif, très soif. La plupart d'entre eux mettent les deux genoux à terre pour pouvoir boire à pleine gorgée dans la rivière. Seuls 300 hommes restent debout, prenant un tout petit peu d'eau dans le creux de leurs mains pour étancher leur soif. Ce sont ces 300 hommes-là que je veux, dit le Seigneur. Mettez-les à part. La nuit approche. Le camp des ennemis, des Madianites, était dans un profond sommeil. Gédéon fait approcher ses troupes, ses 300 hommes, ce nombre absolument ridicule humainement. Et en plus, ces hommes avaient des armes bien particulières. Ils avaient chacun une trompette et une lanterne enfermée dans une cruche pour éviter que la lumière ne se voie. Au signal de Gédéon, tous brisent ce pot de terre, cette cruche. La lumière, lui, les hommes sonnent de la trompette de tout leur souffle. Et alors, Dieu intervient. Il envoie dans le camp ennemi une peur panique, si terrible qu'ils perdent totalement l'esprit et s'entretuent, laissant aux Madianites une victoire éclatante, miraculeuse, toute divine. Les pères de l'Église ont bien sûr commenté ce passage. Gédéon représente notre Seigneur, notre chef, qui nous conduit à la victoire. Et les 300 hommes, ce sont les chrétiens fervents, chacun d'entre eux qui remporte une victoire humainement impossible grâce au secours de Dieu. Cette victoire, c'est celle de notre salut. C'est la victoire qui nous mène au ciel. Ils ont certaines caractéristiques, ces héros. Ils n'ont pas peur de se battre contre l'ennemi, c'est-à-dire qu'ils combattent hardiment les tentations. Ils ne s'épargnent pas pour les combattre. Et de plus, ils n'en prennent pas à leur aise en buvant à la rivière, mais bien plutôt, ils brisent leur peau de terre, c'est-à-dire, selon les pères de l'Église, leur propre corps, leur chair, ce qu'on appelle la concupiscence. Ils le brisent par la mortification. Et cette mortification est vraiment au cœur même de notre religion, de la spiritualité vraiment catholique. Elle consiste principalement en une certaine sobriété, une sobriété chrétienne. C'est-à-dire, on retranche les plaisirs inutiles qui affaiblissent notre âme, qui la rendent moins forte contre les tentations, parce que plus habitué à chercher le plaisir. Et cette sobriété s'exerce dans toute notre vie, un peu à chaque instant. Ce peut être dans le manger et le boire, de ne pas rechercher les mets qui plaisent, qui flattent notre goût, mais plutôt celles qui sont objectivement utiles à la santé. D'ailleurs, la nourriture, c'est fait pour cela. Ce peut être de bien se tenir. Cela demande une certaine contenue et ce peut être une mortification. Ou encore, ce sera de ne pas accumuler chez soi des objets inutiles qui entassent l'espace ou encore des vêtements à faire craquer les armoires. Et aussi, c'est d'éviter, bien sûr, aujourd'hui, les écrans, autant que possible. Dans une certaine manière, ce peut être nécessaire pour notre travail, entre autres, mais n'avons-nous pas tendance à en l'utiliser un peu trop, pour nous divertir parfois, alors que cela fait pénétrer dans notre esprit ce qui est l'esprit du monde? Enfin, les 300 hommes sonnent de la trompette, c'est-à-dire qu'ils prient de tout leur cœur et ils sont entendus et exaucés de Dieu. En conclusion, que celui qui est debout prenne garde de tomber, nous dit saint Paul. Tous, vous pourriez donner des noms, peut-être même une liste de noms de personnes qui jadis fréquentaient nos églises et qui maintenant n'ont pas persévéré. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Dieu est fidèle, il nous donne toujours les moyens nécessaires pour nous sauver, mais c'est à nous de les prendre, c'est à nous de coopérer. Bien sûr, dans le monde actuel, ce n'est pas forcément très facile. C'est plus difficile qu'autrefois. Cet esprit d'agitation continuelle ne nous aide certainement pas à nous recueillir pour bien prier. Et puis, la recherche de la jouissance que l'on voit partout autour de nous nous entraîne contre cet esprit de la croix. Et aussi tous ces divertissements que le monde nous offre si facilement, eh bien, ils nous aident pas à faire notre devoir d'État. Mais vous voyez, dans les difficultés actuelles, nous avons une mère qui est là pour nous aider. C'est Notre-Dame, notre Mère du Ciel, qui nous aime tendrement et qui nous aide, qui nous exauce. Au pied de la croix, elle se tenait là, debout, Stabat Iuxacrucem, alors que tous, même les apôtres, avaient abandonné son Fils. Que Notre-Dame nous aide donc à rester nous aussi fidèles à notre Seigneur en ce temps de la Passion de l'Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.